rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous culture. Aujourd'hui, nous allons parler des algues vertes, l'histoire interdite d'Inès Leroux et de Pierre Van Hoff. C'est une BD. Nous allons parler aussi d'un polar, Auriel et les As du polar, de Cindy Duhamel. Un roman avec les abeilles grises d'André Kourkoff. Nous parlerons aussi d'un jeu, Set Wonders Architect, d'Antoine Boza, d'un autre roman, Pour que je m'aime encore, de Maria Majidi, puis nous évoquerons cinq ressources sur la guerre en Ukraine, et ensuite nous parlerons de nos animations estivales, l'enquête dans la ville, avec Antoine, Aurore et Anne. Et tout de suite, parlons des algues vertes avec Antoine.
Merci beaucoup Anne. Alors je vais vous parler de cette bande dessinée qui en fait date de 2019, donc c'est pas tout récent, elle est disponible à la bibliothèque Saint-Corneille, mais je l'ai lu récemment parce qu'un ami me l'a offert en fait. Et il y a deux choses que j'ai vraiment beaucoup aimées dans cette BD. D'abord c'est un point complet sur les algues vertes, je sais pas si vous en avez entendu parler, moi j'en entendais parler depuis longtemps, mais je m'étais jamais vraiment penché sérieusement sur le sujet. Alors j'étais au courant qu'il y avait un lien avec l'élevage intensif, notamment l'élevage de porcs, j'étais au courant qu'il y avait des problèmes sanitaires, ça s'arrêtait là. Et donc en fait c'est effectivement une algue qui s'appelle Ulva armoricana, donc évidemment liée à la Bretagne, dont on sait maintenant que la prolifération est encouragée par les nitrates issus de l'agriculture intensive et de l'élevage de porcs, comme je viens de vous le dire, et qu'elle dégage du sulfure d'hydrogène dans des quantités qui peuvent être létales, puisque donc la bande dessinée raconte le premier mort identifié à Saint-Michel en Grève en 1989, puis des animaux, puis d'autres morts. Ce qui est vraiment intéressant dans la bande dessinée, c'est que c'est une enquête journalistique qui fait un point assez complet sur le chemin vers la reconnaissance de ce qu'on sait aujourd'hui. Tout ce que je viens de vous dire il y a 5 minutes, aujourd'hui ça fait consensus. Il y a des points qui ne font pas consensus, mais ça tout le monde est à peu près d'accord. Mais en revanche, arriver à ce consensus, ça a mis environ 30 ans. Entre la reconnaissance du premier mort et la reconnaissance vraiment officielle et le consensus politique, scientifique et médiatique sur cette question. Et c'est très intéressant de suivre justement les premiers médecins qui identifient les premiers cas d'intoxication, les premiers militants qui se battent pour que des analyses, des autopsies soient faites. Et alors moi d'habitude je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis des bandes dessinées militantes. Les algues vertes, donc ça a été pré-publié dans la revue dessinée, qui est une revue où il y a souvent comme ça des sortes de bandes dessinées un peu entre le documentaire, entre le journalisme et le militantisme. Et là, c'est fait de manière très intelligente. On n'a pas juste les gentils militants locaux qui se battent contre les méchants politiciens alliés aux méchants industriels. Là, on a quand même un vrai travail journalistique qui est fait par Inès Leroux et qui montre qu'il y a aussi des hommes et des femmes politiques qui se battent pour que la vérité soit, si vous voulez, précisée et éclaircie. Et puis, dernier point, c'est un livre dont j'ai adoré les couleurs. Alors, les coloristes, souvent, ils n'apparaissent pas sur la couverture. Là, c'est une coloriste qui s'appelle Mathilda Ravenot, dont je ne connais pas vraiment les autres œuvres, mais c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans cette bande dessinée, c'est ce jeu des couleurs avec beaucoup d'alliances de vert, de jaune, de bleu, mais parfois des touches de rouge et de rose qui viennent un peu tout changer. Et ça fait partie du plaisir qu'on a à lire cette bande dessinée, où en fait, on aborde quand même un sujet assez complexe, parce que c'est de la politique, c'est de la chimie, c'est de la médecine, mais en fait, on ne voit pas le temps passer. Si vraiment on est mordu, il y a un très bon dossier documentaire à la fin de la bande dessinée. Voilà, c'est un beau document. Et je passe la parole à Aurore, qui va nous parler d'une auteure qu'on connaît un peu dans le Compiègnois.
Exactement Antoine, je vais vous parler de Cindy Duhamel qui est une auteure locale et moi j'aime beaucoup mettre en lumière les auteurs locaux. Avec son roman à but pédagogique Auriel et les As du polar, Cindy Duhamel lit deux autres histoires qu'elle a écrites. On retrouve dans les personnages à la fois le commissaire Pluchart de son roman Enquête dans le pétrin et puis bien sûr on retrouve Auriel du roman éponyme Auriel et les héros de la littérature. Alors si la jeune fille à ce moment-là a rencontré Victor Hugo ou Molière dans le premier roman, ici on a affaire à une jeune femme, donc Auriel a bien grandi, elle est bien ancrée dans le réel, mais elle fait quand même appel à d'autres personnalités pour résoudre une enquête pour le compte du commissaire. Cette fois-ci, Auriel nous fait rencontrer Agatha Christie, Maurice Leblanc ou encore Sherlock Holmes, pour ne citer qu'eux, puisqu'il y en a d'autres aussi. Cindy Duhamel a ce don, je trouve, pour que le lecteur apprenne sans s'en rendre compte. Elle distille des anecdotes sur les romanciers, sur leurs personnages fétiches, avec à chaque fois beaucoup de délicatesse. Et aussi beaucoup d'humour, parce que parfois elle met aussi en relation les auteurs avec leurs propres personnages. Donc c'est assez comique. Et tout en apprenant davantage sur ses as du polar, ben on suit aussi donc la vie d'Auriel et ses élucubrations qui l'amèneront à résoudre une enquête confiée par ce bon vieux commissaire Pluchart. Ce qui est intriguant aussi dans ce roman, c'est la chronologie que Cindy a choisie en regard de ses autres ouvrages. On se situe une dizaine d'années après Auriel et les héros de la littérature, mais bien avant Enquête dans le pétrin, avant que le commissaire Pluchart et sa marine, sa femme, soient en froid. Cette manière d'allier des personnages issus d'univers différents et dans une chronologie qui leur est propre offre une perspective complètement nouvelle, je trouve, sur les romans qui sont déjà parus. Auriel et les As du Polar, c'est donc un roman pédagogique pour ados, mais qui se dévore aussi en deux temps trois mouvements pour les plus grands. Et on a plaisir à lire et à apprendre aussi des choses. Voilà.
Merci Aurore. Alors moi je vais vous parler d'un roman ukrainien, d'un auteur ukrainien qui écrit en russe. C'est Les abeilles grises d'Andrei Kourkov. On est sur la ligne de front entre la République populaire du Donetsk et l'Ukraine. Et seuls deux habitants sont restés dans leur village. Ils survivent comme ils peuvent depuis trois ans dans cette zone grise sans électricité, sans eau où sont des canons. Ces deux hommes sont ennemis d'enfance. Ils acceptent tout de même de se parler, vu qu'ils se retrouvent tout seuls, et de s'entraider quand même. On va suivre particulièrement l'un des deux, Sergueï, qui est apiculteur. Abandonné par sa femme et sa fille, il ne vit que pour ses abeilles. Avant la guerre, il proposait d'ailleurs à des clients de passage de faire des siestes apaisantes sur ses ruches. Et c'est pour les protéger des bruits de guerre et des tirs qu'il décide de partir en Crimée pour retrouver Atem, un tatar, rencontré autrefois lors d'un congrès d'apiculteurs dans cette région. Nous allons suivre ainsi ses pérégrinations avec une halle dans un village où il va rencontrer une accueillante épicière. Ce roman a été écrit en 2017, donc bien avant la guerre actuelle. Il nous permet de mieux comprendre les enjeux d'une guerre fratricide qui martyrise les habitants de cette zone grise où tout le monde se méfie de tout le monde et où il est difficile de repérer parmi les soldats, les séparatistes, les Ukrainiens patriotes et les milices qui se trouvent entre les deux. L'auteur exprime brillamment l'atmosphère qui règne dans cette zone de l'entre-deux, au milieu de tout et en même temps en dehors de la guerre. Le silence de la guerre est fort bien évoqué grâce aux explosions lointaines, aux cratères d'obus ou aux incendies rougeoyants qui enflamment l'horizon. Notre héros est un habitant de la guerre, comme il dit, qui se demande comment échapper à cet enfer. Je vais citer page 31, une belle phrase de Kourkov. « Quelque chose s'était brisé dans le pays, s'était brisé à Kiev, là où il y avait toujours un truc qui n'allait pas. S'était brisé de telle manière que de douloureuses fissures s'étaient propagées dans tout le pays, comme dans du verre, et que de ces fissures du sang avait coulé. Une guerre avait éclaté, dont la cause pour Sergueï, depuis trois ans déjà, restait brumeuse. » C'est un livre d'une grande humanité, d'une poésie et d'une tendresse touchante. Le personnage principal est attachant, plein d'attention et d'amour pour ses abeilles. Et il sait naturellement attirer la sympathie d'un artilleur ukrainien, des femmes qu'il respecte et même de son pire ennemi d'enfance. Il est prêt à rendre service, même s'il faut pour cela affronter les policiers russes imprévisibles. Il survit à sa solitude angoissante en se réfugiant dans la nostalgie des souvenirs heureux ou drôles. Et lors de son voyage en Crimée, il contemple la douceur de la nature à travers une vie harmonieuse avec ses abeilles et il se laisse bercer par le silence paisible de l'été. C'est une ode à la nature, au travail qu'elle accomplit, comme le travail des abeilles qui ne se posent pas d'autres questions que de s'atteler à leur besogne, ce qui suscite l'admiration de Sergueï. Andrei Kourkov est un grand talent de conteur. Il a une écriture toute simple, fluide, mélancolique et en prime avec plein d'humour, comme dans ses précédents romans, dont le Pingouin, qui était sorti dans les années 2000, qui était un bijou d'humour et de finesse littéraire. Vraiment des lectures que je vous conseille. On va faire une petite pause musicale où je vous propose d'écouter un titre du groupe de rock Little Odetta Shake. Ce groupe fait partie des quatre groupes programmés au Festival des Rendez-vous de septembre dans le jardin du cloître de la bibliothèque du 1er au 4 septembre. Little Odetta est le premier album éponyme de ce quintet de la région parisienne, un album de rock énergique dans l'esprit du rock des années 70 où la rythmique soutenue et les riffs entêtants sont portés par une voix puissante de la chanteuse. Ce premier titre, Shake, transmet une énergie positive et un appel à danser, en attendant de les voir sur scène le vendredi 2 septembre.
Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, après cette petite pause avec Shake de Little Odetta, qu'on va retrouver à Compiègne pour les rendez-vous de septembre dans le cloître de la bibliothèque Saint-Corneille, je vais vous parler d'un jeu. Et pour une fois, je vais vous parler d'un jeu que j'ai pas aimé au premier abord. Alors, je suis souvent assez enthousiaste sur les jeux que je vous présente. Là, je vais vous expliquer, un, pourquoi je n'ai pas adoré et pourquoi je vous en parle quand même. Alors, Seven Wonders Architect, c'est un jeu qui est dans la continuité de Seven Wonders. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Seven Wonders a souvent été considéré comme l'un des jeux, voire le jeu le plus primé au monde. Il a été créé en 2010 par Antoine Bozat Et le principe, c'est qu'on incarne une civilisation de l'Antiquité et qu'on doit rassembler des ressources en choisissant des cartes dans le but de construire une merveille du monde et d'avoir le maximum de points de victoire avant la fin de la partie, parce que quand même, à la fin, c'est un jeu, donc le but, c'est de gagner. Même si le but, c'est aussi de s'amuser même quand on ne gagne pas. Et Seven Wonders Architect, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès depuis sa sortie en 2021 et qui a remporté l'As d'Or au Festival du Jeu de Cannes en février 2022. Le Festival du Jeu de Cannes, c'est pour les gens qui connaissent un peu ou qui s'intéressent un peu aux jeux de société, c'est beaucoup plus important que le Festival du Film de Cannes. Et c'est le principal festival de jeux. Et du coup, Seven Wonders Architect, c'est une forme de déclinaison du Seven Wonders d'origine.
Alors, moi, Antoine, j'adore le Seven Wonders normal. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas jouer à deux. Et ça m'attriste parce qu'il faut toujours être plus que deux pour jouer. Et est-ce que, du coup, avec le Seven Wonders Architects, on peut retrouver aussi cet esprit qu'on adore dans le Seven Wonders normal?
Alors, oui et non. D'abord, il y a deux options si on veut jouer à deux à Seven Wonders. Il existe Seven Wonders Duel, qui est une déclinaison pour deux de Seven Wonders, et qui existe depuis quelques années et qui fonctionne vraiment bien. Mais effectivement, avec Seven Wonders Architects, on peut jouer à deux. Après, ça fonctionne sur le même principe que Seven Wonders, c'est-à-dire il s'agit toujours de rassembler des ressources avec des cartes pour construire sa merveille, mais c'est une version qui est très différente parce qu'elle se veut plus accessible. Notamment, un des principes du jeu Seven Wonders d'origine, qui est la notion de capacité de production et qui était parfois un vrai frein pour les gens qui commençaient à jouer, qui n'étaient pas tellement habitués à jouer à des jeux de société contemporains. Du coup, ce principe-là n'existe plus et ça a été beaucoup simplifié. Quelque chose qu'on retrouve aussi, c'est le plaisir de construire pas à pas sa merveille, avec en plus des éléments graphiques qui sont superbes. Si vous voulez, vous avez des sortes de cartes qui représentent des éléments de chantier que vous retournez pour construire vos jardins suspendus de Babylone, ou bien vos pyramides, ou bien votre colosse de Rhodes. Et du coup, c'est toujours aussi beau que le Seven Wonders qu'on connaît, ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Mais c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide. On choisit les cartes entre trois tas différents. On adopte des stratégies selon ce que joue son voisin de gauche ou de droite. Mais en gros, on peut expliquer les règles en 15 minutes, y compris à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce genre de jeu. Alors que moi, ça m'est déjà arrivé d'expliquer Seven Wonders d'origine. Selon qu'on comprend rapidement ou pas les concepts qui sont au cœur du jeu, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, c'est une version simplifiée. Et à vrai dire, moi, c'est ce que je n'ai pas aimé. Je trouve que le jeu est trop rapide, qu'il y a aussi une trop grande part laissée au hasard et pas assez à la stratégie. Et du coup, j'étais un peu frustré la première fois que j'ai joué. Par rapport au jeu que je connaissais précédemment, j'ai trouvé ça un peu moins bien. Et puis, finalement, en y rejouant au cours du festival Pluie de Jeux à l'Abbaye du Mont-Cel, puis au cours du festival Arc en Jeu à Compiègne en mai, je me suis rendu compte que c'était assez sympa parce que ça permettait de faire jouer des enfants par exemple d'âge un peu différent, de pouvoir faire jouer des gens qui connaissent déjà bien les jeux de société avec des gens qui connaissent pas trop, et que finalement, alors c'est pas le jeu le plus stratégique de la Terre, c'est plus léger que celui qu'on connaissait, mais en fait c'est quand même un jeu sympa et puis qui a le caractère un peu agréable d'être vraiment accessible à tous.
Ok, bah j'essaierai alors.
Merci Aurore. Bah, du coup, à l'occasion, on pourra y jouer ensemble. Et maintenant, on va parler de Céline Dion. Non, pas de Céline Dion. On va parler de Pour que je m'aime encore, de Mariam Majidi. Anne.
Oui, c'est vrai que le titre fait penser à une chanson de Céline Dion. Alors, Pour que je m'aime encore, c'est le deuxième roman de Mariam Majidi. Elle avait eu le Goncourt du premier roman il y a 2 ans pour son livre Marx et la poupée, qui avait été pour moi un grand coup de cœur. Elle y traitait de l'exil et de l'existence partagée entre deux cultures. Et dans ce deuxième roman, Pour que je m'aime encore, elle nous parle de son adolescence en tant que fille venue d'Iran dans les années 1980 et qui vit dans une cité de la banlieue parisienne, Drancy. C'est pas la période la plus facile, surtout quand on a du mal à accepter son corps qui se transforme. Elle raconte avec finesse comment elle se trouvait laide et rejetait tout ce qui en elle trahissait ses origines orientales. Sa touffe de cheveux indomptable, ses sourcils trop rapprochés, sa pilosité. Elle rêvait d'intégrer les canons de beauté occidentale et de ressembler à ses idoles des séries télé américaines. Plus largement, elle exprime la façon dont c'était compliqué de s'intégrer et de se sentir intégré, et de se projeter vers un avenir réjouissant. On sent de la tristesse et une colère légitime sur ces années vécues comme une confrontation à la double difficulté d'appartenir à un milieu social défavorisé et de venir d'ailleurs, de porter toujours sur elle sa différence. La sensation permanente, comme elle l'écrit, que depuis notre arrivée en France, on ne faisait rien comme les autres. On ne pouvait pas simplement se fondre dans la masse, faire comme eux, se comporter comme de vrais Français. Mais elle y croit, à l'idéal républicain, à la progression par le mérite. C'est une histoire d'exclusion, d'aspiration déçue, de pseudo-ascenseur social qui se révèle factice lorsqu'on n'a pas les codes scolaires ni sociaux pour les hautes études. Elle en apporte un témoignage concret. Mais cette adolescence, Mariam Ladjidi la déroule sans pesanteur ni aigreur, mais avec autodérision. Elle prend même le parti de nous faire sourire plutôt que de pleurer. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce roman surtout. Elle alterne les souvenirs et les anecdotes et donne ainsi une belle profondeur à son roman autobiographique. Elle choisit de partager la narration en deux voix distinctes. Une à la première personne raconte la vie de la jeune ado. Et l'autre adulte apporte son grain de sel piquant, avec une distance critique très intéressante. Leur juxtaposition et leur dialogue produit un bon dosage d'ingénuité et de causticité qui n'appartient qu'à elle et crée un équilibre remarquable entre vitalité et mélancolie, drôlerie et gravité qui fait toute la force de ce roman d'apprentissage. On se régale avec sa plume incisive. Il y a notamment des pages savoureuses où elle passe en revue une panoplie de professeurs plus ou moins médiocres, mais elle souligne le rôle de ceux qui l'ont aidée à croire en elle, notamment le premier qui l'a encouragée à écrire. Je vous recommande ce roman pour son ton énergique, sa voix singulière, pleine de verve et un sens de la formule qui fait mouche. C'est juste, frais, et ça illustre à merveille les contradictions de notre société. Maintenant, nous allons évoquer des ressources sur la guerre en Ukraine avec Antoine.
Merci Anne. Alors, effectivement, un sujet peut-être moins léger. Alors, vous nous parliez avant la pause du roman Les abeilles grises d'Andrei Gourkov. Et Andrei Gourkov, c'est un très bon exemple justement de toute l'ambiguïté, de toute la difficulté de comprendre ce que c'est que la société ukrainienne, de ce que c'est aussi que les enjeux profonds du conflit actuel. Et au tout début, en février, au tout début de l'invasion russe de l'Ukraine, moi j'ai eu beaucoup de mal avec l'information qu'on trouvait dans les médias généralistes en France, où je trouvais que l'information, elle était pas forcément biaisée, mais en tout cas un peu légère. C'était un point de vue très franco-français ou très européen. Et j'ai eu du mal à trouver en fait de bons articles ou de bonnes vidéos ou tout ce qu'on veut en expliquant vraiment mais qu'est-ce qui se passe, comment s'organise la guerre, comment est le territoire ukrainien, comment la population sur place elle vit vraiment les choses. C'était très compliqué, j'ai trouvé de trouver de bons articles. Et du coup aujourd'hui je vous dis un peu pas la quintessence mais une sélection de cinq personnes, cinq spécialistes qui s'expriment de manière assez différente sur la guerre en Ukraine. Alors, la première, c'est Anna Colin-Lebedev, qui est une maîtresse de conférences en sciences politiques et qui est spécialiste des sociétés post-soviétiques. Et elle est très précieuse pour la remise en contexte. C'est-à-dire qu'elle explique d'où viennent justement les problématiques actuelles de la société russe et du pouvoir politique russe par rapport au passé soviétique, le poids relatif des mouvements contestataires, les tensions qui traversent le rapport entre la société russe et sa classe politique, mais également comment fonctionne la société ukrainienne vis-à-vis de ça, le rapport au passé soviétique, enfin voilà, des choses comme ça. Elle est extrêmement précise, elle est extrêmement pédagogue, et alors on peut retrouver ses analyses sur Twitter. Tous les spécialistes dont je vais parler aujourd'hui, ils sont présents d'une manière ou d'une autre sur Twitter, mais en général aussi en dehors de Twitter. Donc si vous n'avez pas l'habitude de Twitter, il y a aussi des moyens. Et notamment, Anna Colin-Lebedev, elle a fait la semaine dernière, je crois, une très bonne interview sur la chaîne YouTube de Pascal Boniface, qui est une chaîne de géopolitique souvent très intéressante. Et vraiment, c'est... comment dire ? On est fiers, en fait, d'avoir en France d'aussi bonnes spécialistes de géopolitique qu'Anna Colin-Lebedev. C'est pas la seule, évidemment, mais c'est quand même quelqu'un qui est d'une intelligence et d'une pédagogie assez remarquable. La deuxième personne dont je voudrais vous parler, c'est Michel Goya. Vous l'avez peut-être vu parce que depuis quelques semaines, il est chroniqueur sur BFM TV. Mais depuis assez longtemps, il tient un blog qui s'appelle La Voix de l'Épée. C'est un colonel français qui a été militaire sur pas mal de théâtres d'opérations français à l'étranger ces dernières décennies, qui a été, à la fin des années 2000, je crois, conseiller militaire du chef d'état-major des armées, et qui a des analyses assez précises sur la stratégie, sur les différents matériels militaires, sur les différents enjeux les rapports entre les pertes humaines, les matériels, les bombardements, la place des forces aériennes, des choses aussi cruciales que ça. Michel Gollet, il est d'une clarté et d'une intelligence souvent assez remarquable, et puis avec une certaine humilité intellectuelle, même s'il donne quand même son avis et des opinions, mais c'est très fertile. Donc pareil, sur Twitter souvent, beaucoup sur son blog La Voix de l'Épée, et puis sur BFM de temps en temps. Un troisième spécialiste, alors ça c'est en anglais, il s'appelle Jomini of the West, et je ne connais pas son nom exact, mais il complète pas mal Michel Goya, avec souvent plus de précision sur les détails des différents fronts. On va vraiment sur le détail de la géographie de Severodonetsk, les différentes armées, le fonctionnement des brigades, des groupements interarmes, etc. On va très très loin dans le détail de la stratégie militaire, c'est absolument passionnant. Moi je ne m'étais jamais intéressé en détail à comment fonctionne une guerre, et j'ai appris énormément grâce à lui. Un quatrième exemple assez différent, c'est Paul Gogo, qui était il n'y a pas si longtemps envoyé spécial de Libération dans le Donbass, et qui est spécialiste à la fois de la société russe et justement du Donbass séparatiste. Et c'est très utile parce qu'il montre souvent des nuances par rapport à ce qu'on entend beaucoup en France sur l'adhésion ou non de la population russophone d'Ukraine à la présence russe, sur comment fonctionne justement le rapport entre les séparatistes, les pro-russes, les plutôt pro-ukrainiens, et les différentes stratégies des différents camps vis-à-vis de la population qui se retrouve un peu tiraillée, comme le disait Anne tout à l'heure. C'est très fin, c'est très intéressant. Pareil, on peut le suivre sur Twitter, mais il a aussi publié dans Libération, donc on peut les retrouver sur le site de Libération, plusieurs grandes enquêtes assez fouillées sur ces populations russophones du Donbass. Et puis je termine par un site et un compte Twitter un peu différent, ça s'appelle Stratpol. C'est un fil extrêmement pro-russe, alors parfois très excessif, parfois outrancier, mais ça permet d'avoir le point de vue pro-russe, ou en tout cas un point de vue pro-russe, qu'on entend très peu dans les médias généralistes en France, avec lesquels on n'est pas obligé d'être d'accord. Souvent, il y a des choses qui sont très clairement contestables, mais ça permet au moins d'avoir une idée des arguments qu'on n'entend pas forcément énormément chez les analystes français. Voilà. C'est juste, vous voyez, une sélection de 5 points de vue, qui sont juste 5 points de vue, mais qui permettent de se renseigner et d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qui est aujourd'hui sans doute un moment géopolitique un peu majeur. Et maintenant, on va parler de Yalda. Yalda, c'est un film, c'est ça ?
Oui, un film iranien de Massoud Bakshi. On vient de recevoir le DVD et je voulais en parler parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai vu au cinéma donc quand il est sorti il y a 2 ans. Donc il met en scène Mariam qui à 22 ans avait tué accidentellement son mari Nasser de 65 ans. Et donc le film va se passer pendant une émission de télévision où Mariam, pour ne pas être condamnée à mort, va devoir obtenir le pardon de la fille de Nasser. Et en fait, c'est une émission de télévision qui a réellement existé pendant plusieurs années et rencontré beaucoup de succès en Iran, qui faisait la loi, en fait. Les téléspectateurs téléphonaient pour savoir s'ils étaient pour le pardon ou non. Et donc, du coup, l'invité de l'émission, à la suite de l'émission, allait être exécuté ou pas. Et c'est un film sidérant. Donc on voit les coulisses de l'émission, c'est même passionnant. Et là, c'est vraiment tourné comme un thriller. Donc on passe des coulisses à la scène. Et c'est passionnant. Et en même temps, oui, c'est effroyable. Parce que tout se joue là avec la présentation et aussi les personnes qui souffrent toutes. Que ce soit la fille du mort ou la jeune fille qui est accusée. On n'a pas beaucoup parlé de ce film, alors que je trouve que c'est un film très très important. Yalta, en fait, le sous-titre s'appelle « C'est la nuit du pardon ». Il permet aussi de développer un point de vue critique sur la façon de mettre en scène le sort des condamnés en Iran et quand la justice devient spectacle, mise en scène. Et ce film montre comment dans un des pays les plus conservateurs du monde, une émission de télévision pouvait jouer avec les règles du talion. Yalta avait reçu le grand prix du jury du festival de Sundance en 2020. Et lors de sa sortie en Iran, il a généré des recettes qui ont été redistribuées à une ONG iranienne qui luttait pour libérer les condamnés à mort en obtenant le pardon des familles des victimes. Mais on voit aussi le pouvoir du cinéma puisque grâce à ce film, l'émission après s'est arrêtée. Quand même. Et ce long métrage est aussi l'occasion d'évoquer la place des femmes en Iran. Ce pays est encore très conservateur, mais où finalement les femmes sont de plus en plus visibles. Et dans ce film, il y a beaucoup de personnages qui sont féminins, hormis le présentateur de télé qui est complètement ignoble. Et il évoque aussi la fracture sociale entre les différentes classes, puisque Mariam, elle est issue d'un milieu modeste. Et elle fait face à la fille d'un publicitaire fortuné. Et aussi à travers le mariage de Mariam et de Nasser, il avait quand même 65 ans et elle 22, ils abordaient aussi la notion du mariage temporaire qui consistait à s'unir pour une durée déterminée. Et ce film sur le pardon est donc une œuvre riche en enseignements sur la société et la culture persane. Et il offre une véritable réflexion sur le rôle exercé par les médias audiovisuels. Le scénario est ingénieux et il fait entrer beaucoup de rebondissements, comme dans une vraie émission de spectacle télévisuel. C'est bien sûr dramatisé, mais sans nuire à la vraisemblance. Et Yalta s'impose par la tension que son réalisateur sait faire naître de bout en bout. Et c'est vraiment très fort. Donc on l'a en DVD à la bibliothèque. Maintenant, on va évoquer notre animation de l'été grâce à Aurore.
Oui, merci Anne. Alors en fait, comme vous le savez sûrement, les bibliothèques vont fermer cet été, exceptionnellement, pour mieux vous accueillir à la rentrée. Mais pendant ce temps-là, nous ne vous avons pas oublié et on vous a même préparé quelque chose. Alors on a appelé ça « Enquête dans la ville ». C'est une animation familiale, à partir de 12 ans environ, à faire en toute autonomie. Oui, en toute autonomie. Donc avec cette enquête dans la ville, en fait, nous vous proposons un jeu de pistes ancré dans le territoire avec un scénario teinté d'humour. Le pitch est simple, une bibliothécaire est assassinée et un corbeau veut faire éclater la vérité sur le coupable. Il a donc semé des indices dans le Compiénois pour que vous puissiez résoudre l'enquête. Pour participer à ce jeu de pistes grandeur nature dans la ville, il vous faudra un objet obligatoire, c'est un smartphone. Avec sur votre smartphone une application pour scanner des QR codes, puisque cette enquête dans la ville est complètement numérique, ça veut dire qu'il faudra quand même vous balader d'un point A à un point B pour trouver le prochain QR code qui est le prochain indice, mais il n'y aura pas d'autres choses physiques que les QR codes. Avec cette application du coup de QR code sur votre smartphone, il vous faudra aussi une application GPS type Google Maps pour être bien sûr de l'endroit auquel vous voulez vous rendre si vous ne connaissez pas tout à fait le Compiénois. Si vous connaissez bien le Compiénois, en vrai peut-être que vous n'en aurez même pas besoin. C'est une balade piétonne qui dure environ 2 heures, qui fait un peu moins de 5 km. Et puis en fonction en fait, de la rapidité avec laquelle vous trouverez les indices et que vous irez d'un point A à un point B, voilà, le temps peut varier, mais on estime que ça prendra environ 2 heures. Pour commencer ce jeu de piste, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez bien sûr prendre comme point de départ la bibliothèque Saint-Corneille ou la bibliothèque Jacques Morichon, sur laquelle nous afficherons le premier indice, qui sera un faux article de journal, un journal que nous avons appelé « Bruit de couloir » pour les besoins du jeu. Et vous pourrez aussi retrouver le QR code de ce premier indice pour le retrouver sur votre smartphone. Personnellement, je vous conseille plutôt de commencer à la bibliothèque Saint-Corneille parce que c'est quand même le point de départ central du jeu. Mais vous pouvez le commencer de n'importe où. D'ailleurs, on aura aussi des affiches ou des flyers qui seront distribués peut-être ailleurs dans le centre-ville, chez des commerçants ou à l'office du tourisme, ou voilà, que vous pourrez retrouver sous le nom Enquête dans la ville, qui donnera le QR code du premier indice pour pouvoir commencer n'importe où, depuis n'importe où, ce jeu de pistes. Enfin, bien sûr, vous retrouvez ce premier indice directement sur le site des bibliothèques de Compiègne pour pouvoir même le commencer de chez vous. Sachant que du coup, la balade durera peut-être un peu plus longtemps, puisque le point de départ, on a dit, c'était plutôt la bibliothèque Saint-Corneille. Mais ça vous permet en tout cas de vous mettre en jambes et de voir si ça vous donne envie de résoudre cette enquête. Parce que le corbeau qui a distillé ces informations est aussi apostrophé du coup par plusieurs articles de journaux, de ce faux journal Bruit de couloir, et vous verrez, c'est très drôle. J'espère que ça vous plaira, que vous vous amuserez à suivre ce jeu de pistes Enquête dans la ville. Il sera disponible dès le début des vacances scolaires, début juillet, et ce pour tout l'été. Voilà, donc une bonne balade à faire dans le Compiénois, et j'espère que vous retrouverez les petits clins d'œil qui ont été faits, en tout cas au territoire. Voilà. Et bien, amusez-vous bien et bonne enquête.
On a hâte d'y jouer, que ce soit en famille ou entre amis.
Ah oui, j'ai très envie de la tester, cette enquête.
Merci Aurore. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé des algues vertes, l'histoire interdite d'Inès Leroux et de Pierre Van Hove, d'Auriel et les As du polar de Cindy Duhamel, des abeilles grises d'Andrei Kourkov, du jeu Seth Wonders Architect, du roman Pour que je m'aime encore de Maria Majidi. Nous avons évoqué 5 ressources sur la guerre en Ukraine, dont celle de Anna Colin, Lebedev, Michel Goya, Paul Gogo. Ensuite du film Yalda, le film de Massoud Bakshi. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens sur notre site internet des bibliothèques de la ville de Compiègne. Pour rappel, nous fermons cet été du 11 juillet au samedi 3 septembre pour travaux et pour l'aménagement de la RFID, les bornes de libre service pour plus d'autonomie et de modernité. Début septembre, n'oubliez pas les concerts du cloître. Donc c'est du 1er au 4 septembre, à dominante rock et funk. Et un peu de soul aussi. Les prochains rendez-vous culture. Alors, on a un rendez-vous culture spécial série le 1er juillet à 18h. Ensuite, à la rentrée, le 16 septembre dans le cloître, où vous pouvez venir nombreux, n'hésitez pas. Et à la radio sur Graphite le 23 septembre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Antoine et à Aurore pour ces interventions et à la technique. Et nous vous souhaitons un très très bel été.
Merci Anne.
Merci Anne.